France Culture.
Mais avant, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Mathilde Romagnan. Rebonjour Mathilde.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Christophe Leribaud est le nouveau directeur du Louvre. Après la démission hier de Laurence Descartes, il prend la tête du musée le plus visité au monde. Portrait à suivre de celui qui était, il y a encore quelques heures, président du château de Versailles. Le texte sur la fin de vie, soumis au vote solennel de l'Assemblée nationale cet après-midi. Difficile de trouver un compromis autour de cette proposition de loi. L'invité de ce journal est le député RN de Moselle, Laurent Jacobelli, alors qu'est examinée aujourd'hui la motion de censure du Rassemblement national pour protester contre la publication par décret de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le ministère de la Santé, auditionné en ce moment devant le Conseil d'État sur sa gestion de la crise des laits infantiles contaminés, c'est une information de la cellule investigation de Radio France. Et le président américain Donald Trump s'en prend à l'Iran dans son discours de politique générale devant le Congrès. Il accuse Téhéran de développer des missiles pouvant atteindre les États-Unis, ce que l'Iran dément. Un homme à la tête du musée du Louvre après la démission de Laurence Descartes acceptée hier par le chef de l'État Emmanuel Macron. Bonjour Benoît Grossin.
Bonjour Mathilde, bonjour à toutes et à tous.
La nomination de Christophe Leribaud, jusqu'ici président du château de Versailles, vient d'être actée en Conseil des ministres avec pour mission de sécuriser, moderniser et mener à bien le projet colossal baptisé Louvre Nouvelle Renaissance.
Docteur en histoire de l'art, diplômé de l'école du Louvre, ce spécialiste du XVIIIe siècle est aussi un acteur clé des jeux de chaises musicales pour les directions des grandes institutions culturelles. Après avoir été appelé à la rescousse pour la succession de Catherine Pégard à la tête du château de Versailles, Christophe Leribaud, d'abord conservateur au début des années 90 du musée Carnavalet, musée de l'histoire de Paris, va donc prendre les rênes du plus grand musée du monde dans la tourmente depuis le spectaculaire vol des bijoux de la couronne dans la galerie d'Apollon le 19 octobre dernier. Le Louvre qu'il briguait justement en 2021 quand Laurence Descartes a été nommée à sa présidence. Ce musée que Christophe Leribaud connaît bien puisqu'il en a été un des responsables au poste d'adjoint du département des arts graphiques à la fin des années 2000 tout en occupant parallèlement la direction du musée de la Croix avant de prendre les commandes du Petit Palais en 2012. Son CV est bien rempli. Christophe Leribaud appelé à éteindre l'incendie social au musée du Louvre, toujours confronté à une grève du personnel et à des problèmes urgents à résoudre en termes de sécurité et de sûreté technique pour les œuvres, va donc quitter à 62 ans le château de Versailles après avoir été aussi pendant 3 ans de 2021 à 2024 à la présidence d'un autre grand établissement culturel et en succédant déjà une première fois à Laurence Descartes, l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie.
Et celle qui va prendre la tête des musées d'Orsay et de l'Orangerie, c'est Annick Lemoine, l'actuelle présidente du Petit Palais, musée des Beaux-Arts de Paris. Elle remplace Sylvain Amick après sa mort brutale l'été dernier. Annonce faite aujourd'hui par la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui est toujours en poste. L'Assemblée nationale doit se prononcer une deuxième fois sur la proposition de loi sur le droit à l'aide à mourir. Elle votera solennellement sur le texte cet après-midi, après s'être prononcée sur un autre texte sur la fin de vie, celui renforçant les soins palliatifs. Bonjour Valentin Grille.
Bonjour Mathilde.
L'issue du vote fait peu de doute, le texte devrait être adopté, même s'il peine à trouver l'équilibre attendu et espéré par son rapporteur, le député Modem Olivier Falorni.
Oui, deux sujets l'ont notamment déstabilisé cet équilibre. D'abord, le fait qu'une mauvaise santé psychologique ne soit pas suffisante pour obtenir l'aide à mourir. Les députés sont tous d'accord, mais s'opposent ceux qui veulent en faire une mention explicite et ceux qui ne jugent pas ça nécessaire. La question de l'auto-administration de la dose létale, ensuite et surtout, le texte initial prévoit que les malades encore en capacité de le faire s'en occupent eux-mêmes, mais un amendement adopté à une voix près a donné le choix aux malades de déléguer ou non la tâche à un soignant. Un changement de paradigme pour certains députés opposés qui estiment que l'euthanasie ne serait plus l'exception mais un choix possible parmi d'autres. Ces deux questions seront remises au vote aujourd'hui afin de dégager une majorité claire. Hier, l'Assemblée a par ailleurs voté un délit d'entrave touchant les médecins qui empêcheraient de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir. Mais pour équilibrer, il a créé à la quasi-unanimité un délit d'incitation en cas de pression pression sur les malades. L'équilibre est donc précaire et il faut aller vite. Après le vote, le Sénat devrait s'opposer en séance puis en commission mixte paritaire et l'Assemblée aurait alors le fin mot durant une troisième lecture. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, estimait encore hier qu'un chemin existait pour une adoption avant l'été, mais ce chemin est étroit. Lors de ses vœux en janvier, Emmanuel Macron avait lui évoqué un référendum si les débats s'enlisaient, méthode qui aurait pour conséquence de figer le texte initial.
Merci Valentin Grille. Et de ce vote à l'Assemblée cet après-midi, on en parle avec Laurent Jacobelli. Bonjour.
Bonjour.
Député Rassemblement National de Moselle, merci d'être avec nous en studio et à mes côtés, le chef du service politique de France Culture, Stéphane Robert. Bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour Monsieur Jacobelli.
Bonjour.
Même si une majorité des députés du Rassemblement National sont opposés à l'instauration de ce droit à bénéficier d'une aide à mourir, c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, personnellement, sur la fin de vie?
D'abord, vous l'avez dit, chaque député du Rassemblement National pourra voter en son âme et conscience. Ce sont des trajectoires personnelles, des vécus différents qui amènent à prendre une décision. Pour ma part, je voterai contre. Je voterai contre après avoir beaucoup réfléchi parce que je pense que l'équilibre entre le libre choix de mourir pour des raisons de santé évidentes, et la préservation de la vie est rompue. Cet équilibre est rompu. On n'a plus les éléments de contrôle et des abus peuvent avoir lieu, notamment en cas de malveillance. Et comme il y a des abus possibles, et donc on fait briser un certain nombre de tabous, je voterai contre.
C'est susceptible de faire évoluer le vote en faveur de ce texte ou pas, à votre avis, ça?
Non, mais je crois que oui, beaucoup de gens qui hésitaient vont voter contre aujourd'hui, dans nos rangs, mais ailleurs aussi, parce qu'un certain nombre de verrous ont sauté. Le droit à mourir, le droit à l'euthanasie, appelons les choses par leur nom, doit être très largement encadré. Ça ne doit pas être un droit facilité, ça doit être l'exception qui confirme la règle, notamment après un renforcement des soins palliatifs. Or, on a l'impression avec ce texte qu'il sera plus facile d'avoir recours à l'euthanasie qu'aux soins palliatifs, et c'est donc une rupture d'équilibre.
Votre groupe a déposé une motion de censure sur un sujet qui n'a pas fait l'objet d'un projet de loi, mais d'un décret, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Or, comme c'est le cas à chaque fois que vous déposez une motion, vous ne serez suivi par quasiment aucun groupe de l'opposition, notamment par les groupes de gauche. Pourquoi lancer une telle procédure alors que vous savez qu'elle n'aboutira pas?
Tout simplement parce qu'on a le droit de se prononcer. L'Assemblée nationale a été mise de côté dans cette décision. C'est un décret, je le rappelle, du Premier ministre sur la PEE, comme on l'appelle, le plan pluriannuel de l'énergie. Il faut dire aux Français ce qui va se passer. 300 milliards d'investissements supplémentaires dans des énergies dites renouvelables, mais qui sont en fait intermittentes. Une mise à mal de nos structures nucléaires qui devront attendre pendant qu'on fait passer d'abord l'énergie éolienne ou solaire. Et donc, ce sont un surenchérissement à prévoir, des taxes supplémentaires à prévoir pour les Français qui payent déjà leur énergie beaucoup trop cher. C'est donc un mensonge d'État avec une spoliation des Français. Évidemment, nous sommes contre cela.
Vous voulez uniquement développer nucléaire, vous?
L'hydroélectrique, aller vers les recherches sur l'hydrogène, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut bien comprendre que quand une éolienne produit de l'électricité, de l'énergie, et c'est pas tout le temps, eh bien elle passe en priorité. Et pendant ce temps-là, on ferme nos centrales nucléaires, et donc on les abîme. Et donc au final, ce surcroît d'énergie éolienne ou solaire, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Ce sont donc des investissements inutiles qui vont renchérir le coût de l'électricité au moment où les Français ont besoin de pouvoir d'achat. Donc au Rassemblement National, nous assumons d'être le parti du pouvoir d'achat, et nous sommes contre ce décret scélérat.
Autre sujet, après la mort de Quentin de Ranc, l'exécutif appelle les extrêmes à faire le ménage dans leur rang. Yaël Braun-Pivet, notamment, président de l'Assemblée nationale, a pointé hier les liens de la France insoumise et du Rassemblement national avec des groupes violents, dont acte hier, puisque la députée du Rassemblement national de la Drôme, Lisette Paulet, s'est séparée d'un de ses collaborateurs parlementaires, Vincent Claudin, qui était un ami de Quentin de Ranc et qui appelait à manifester le week-end dernier. Elle a écrit « Suite aux dernières révélations de la presse, je me sépare de mon collaborateur ». C'est un ancien membre du groupuscule Lyon Populaire, dissous en 2025 pour avoir fait l'apologie de la collaboration et du nazisme. Il est l'auteur, selon un article publié par Mediapart, d'un certain nombre de publications sur les réseaux où il dénonce les pédales, les métèques, il fait l'apologie de la collaboration, du nazisme, il appelle alors l'instauration d'un régime fasciste. Est-ce que l'exécutif a raison de mettre LFI et le RN sur le même plan? Et est-ce qu'il faut que vous fassiez le ménage dans vos rangs, comme on vous appelle à le faire?
Non, soyons sérieux, on ne peut pas tout comparer. On ne peut pas comparer un parti comme la France Insoumise, qui s'associe à une milice, la Jeune Garde, qui a tué. Voilà, ça c'est très clair. Il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale un chef de meute, un chef de milice, un chef de groupe terroriste qui s'appelle Raphaël Arnaud, élu avec les voix du Parti Socialiste, des écologistes, du Parti Communiste et de la France Insoumise.
Mais là, vous avez un collaborateur parlementaire.
C'est structurel. C'est Mélenchon a fait rentrer la violence extrême au sein de l'Assemblée nationale. Nous, nous sommes le parti de la sérénité, de l'ordre et de la paix civile. Quand il y a quelqu'un, et c'est pas structurel pour le coup, qui peut avoir eu des propos ou des idées qui ne correspondent pas aux nôtres, on le vire, on n'en fait pas un député. Vous voyez, la différence, elle est là. Et à vouloir tout confondre, on passe à côté de l'essentiel, la volonté de Jean-Luc Mélenchon d'hystériser le débat, de rendre la violence de prendre la violence comme un argument politique, alors que nous, nous voulons au contraire l'ordre, l'autorité et la paix, c'est-à-dire l'inverse de la violence. Je pense qu'il ne faut pas tout confondre, parce que sinon on ne règle aucun problème.
Vous avez déjà eu ce problème il y a deux ans, en 2024, à l'occasion des législatives, un certain nombre de personnes dans vos rangs qui ont été ensuite virées par la suite, et deux ans plus tard, on en est encore là, puisqu'il y a encore des gens, manifestement, qui sont aux côtés de vos députés, qui font partie du Rassemblement.
Et bien moi, j'appelle tous les mouvements politiques à avoir notre exigence, c'est-à-dire que quand quelqu'un ne correspond pas à la ligne, quand quelqu'un n'accepte pas les règles de la démocratie, il ne faut pas le garder, je le répète. Il y a d'un côté l'institutionnalisation de la violence, et de l'autre, c'est notre côté, le refus de la violence. Moi, je rappelle que le Rassemblement National n'a jamais manifesté contre la libre parole, contre des meetings d'autres personnes, n'a jamais appelé à des vendettas. Aujourd'hui, la France Insoumise appelle à des fatwas numériques, encourage la violence. Une fois encore, c'est pas du tout comparable, et je pense que tout le monde doit prendre ses responsabilités. Il faut pas tout confondre, parce que relativiser veut dire qu'on oublie qu'aujourd'hui, un député, chef de milice, a été à l'origine, directe ou indirecte, d'un meurtre.
Une dernière petite question. Le Conseil d'État examine cet après-midi deux recours déposés par la France Insoumise et vos alliés de l'UDR contre leur nuançage à l'extrême-gauche et à l'extrême-droite en vue des élections municipales. Vous n'avez, pour une fois, pas déposé de recours. Comment ça se fait?
Écoutez, je ne sais pas pourquoi.
Vous entérinez le fait que vous êtes à
mais évidemment, nous ne sommes pas d'extrême-droite, mais vous savez, au bout d'un moment, cette mauvaise foi des autorités commence presque à être risible. Je pense qu'aucun Français n'imagine que nous soyons à l'extrême-droite. Les gens qui votent pour nous et qui ont élu des exécutifs, par exemple des municipalités RN, voient très bien que les règles démocratiques sont respectées, que la liberté de chacun est respectée. Et je pense que tout ça, c'est du fantasme. Vous savez, l'extrême-centre, appelons-le comme ça, a estimé qu'il ne pourrait rester en place qu'en imaginant des ennemis imaginaires. Bon, bah écoutez, c'est son fantasme. C'est probablement pour faire oublier son triste bilan. Son bilan économique, son bilan sécuritaire, son bilan identitaire. Et tout cela est très grave. Il faut maintenant faire place à la alternance, ils peuvent nous appeler un peu comme ils veulent. Nous, ce qui compte, c'est la confiance des Français, et je crois que nous l'avons.
Merci Laurent Jacobelli d'avoir été notre invité. Vous êtes député RN de Moselle, je le rappelle, et merci à Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture.
L'Union européenne annonce ce matin le renforcement de ses contrôles face à la contamination de lait infantile.
Bruxelles vise les importations en provenance de Chine d'huile riche en acide arachidonique, une substance incriminée dans l'affaire des laits infantiles contaminés et posant probablement un risque sérieux pour la santé humaine, selon l'UE. Une décision prise ce matin à l'échelle européenne, alors qu'en France, le ministère de la Santé est auditionné devant le Conseil d'État en ce moment pour s'expliquer sur sa gestion de cette crise. Et c'est une information de la cellule investigation de Radio France. L'association Intox Alim, qui représente 37 familles dans cette affaire, accuse le ministère de minimiser les risques liés à la consommation de lait contaminé et d'empêcher les familles d'avoir accès à des analyses, Marie Dupin.
Oui, dans le référé que nous avons pu consulter, l'association accuse le ministère de la Santé de mentionner dans ses communications officielles uniquement les risques de nausées et de vomissements, sans évoquer les complications graves ni les risques de décès. L'association dénonce aussi les consignes données aux médecins pour ne pas mener d'analyse en dehors des cas graves. Le bébé de Marina, hospitalisé 3 fois, n'a pourtant jamais pu bénéficier d'analyse biologique pour rechercher la toxine incriminée.
Est tombée malade depuis ce 20 janvier, à savoir après avoir consommé du lait qui était rappelé. Nous avons eu une première hospitalisation, on rentre à la maison, rebelote, vomissement, le soir même, on les appelle. 2 semaines après, c'est la dégringolade, c'est encore pire. Elle a des diarrhées comme si on ouvrait un robinet, jusqu'à 7 par jour. Perfusée, ils décident de la sonder parce qu'elle a un refus d'alimentation, elle a perdu 600 grammes, elle ne mange plus rien. Après 3 analyses de sel depuis le 20 janvier, ils n'ont jamais voulu tester la céréulide en nous expliquant que ce n'était pas possible. Moi, j'en peux plus.
De son côté, le ministère de la Santé explique avoir suivi les recommandations de la Société française de pédiatrie. En Belgique, où des analyses sont menées depuis des semaines, 8 cas d'intoxication liés à la consommation des laits infantiles ont d'ores et déjà été établis.
Marie Dupin, cellule investigation de Radio France. 4 enquêtes pénales ont été ouvertes après le décès de nourrissons dans cette affaire. Des taux records de polluants éternels détectés dans les départements de la Meuse et des Ardennes. Une enquête de France 3 est disclosée. Basé basée sur des analyses scientifiques, montre une concentration inédite de PFAS dans les sols agricoles de ces deux territoires où des boues industrielles ont été épandues pendant des décennies.
Le groupe d'électroménager Seb envisage la suppression de 500 postes en France.
Pour un total de 2100 postes dans le monde, le groupe français comprend les marques Moulinex, Tefal, Rowenta. Il a présenté au syndicat un plan pour retrouver une trajectoire de croissance rentable, justifie son directeur général Stanislas de Gramont, qui précise que le groupe doit s'adapter à la concurrence, notamment asiatique, concurrence plus rapide et plus intense, selon ses mots. Héloïse Weiss, ce plan ne prévoit pas de départ contraint, selon le directeur, et devrait concerner 7 sites en France.
Il s'agit des sites de Pont-Évêque, de Mayenne, de Rumilly et du siège social Écully, mais ce n'est pas la production qui est concernée par ces départs. Ce sont les activités tertiaires, des activités support comme la finance et les ressources humaines et qui seront remplacées par l'intelligence artificielle. 500 postes sont donc supprimés en France et 1500 ailleurs dans le monde, comme en Allemagne, en Turquie ou encore au Brésil, car l'objectif de ce plan, c'est de faire 200 millions d'euros d'économies et de redresser la rentabilité de l'entreprise. Le groupe a vu son chiffre d'affaires reculer en 2025 de plus de 1% et son résultat opérationnel a chuté de 25% l'année dernière, conséquence des droits de douane et aux États-Unis et de la volatilité des devises, mais aussi d'une concurrence plus rapide et plus populaire sur les réseaux sociaux, notamment d'après l'entreprise. Avec ce plan et une nouvelle stratégie, le groupe Seb espère désormais retrouver une marge opérationnelle de 10%. Ce midi, l'action du groupe a bondi de plus de 13% sur le marché boursier.
Merci Héloïse Weiss.
Il est midi 46 sur France Culture. L'Iran rejette les accusations de Donald Trump sur son programme de missile.
Dans son discours de politique générale prononcé cette nuit devant le Congrès, le président américain accuse Téhéran de concevoir des armes capables de frapper les États-Unis. Le porte-parole des affaires étrangères iranien dénonce de gros mensonges. Je le cite. Mais ce qui est vrai, Virginie Pironon, c'est que Téhéran dispose d'un arsenal qui n'a jamais été aussi puissant.
Selon les experts, Téhéran, aujourd'hui, n'est pas capable de frapper directement le territoire des États-Unis, situé environ à 8000 km. Pour l'instant, les missiles les plus puissants de l'arsenal iranien ont une portée annoncée de 2000 à 2500 km environ, offrant déjà un large choix de cibles au Proche et Moyen-Orient et pouvant atteindre jusqu'à l'Est de l'Europe. Mais l'Iran essaie-t-il en ce moment d'élargir sa force de frappe, comme l'affirme Donald Trump ? Ce ne serait pas impossible via son programme spatial, expliquent les spécialistes, qui ajoutent que cela n'aurait aucun sens. Pour atteindre le sol américain à 8000 km, ces missiles auraient besoin de beaucoup de carburant, ce qui les empêcherait, pour des raisons de poids, de transporter des charges explosives importantes. Les dégâts seraient donc minimes. Selon les observateurs, cette accusation de la part des États-Unis n'est pas nouvelle, mais dans ce contexte tendu, avec la présence d'une importante armada militaire américaine dans le Golfe, elle pourrait être pour Washington une justification, après les frappes du mois de juin sur les sites nucléaires, d'une nouvelle attaque en Iran.
Virginie Pironon, rédaction internationale de Radio France. En Italie, un fait divers met en difficulté le gouvernement Meloni. Un policier est emprisonné depuis lundi, poursuivi pour homicide volontaire après la mort d'un dealer dont la scène de crime a été modifiée pour faire croire à un acte de légitime défense. Et la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a reproché aux magistrats d'enquêter sur lui, Bruno Duvic.
26 janvier, l'agent Carmelo Cinturino intervient dans un quartier de Milan au lieu du trafic de drogue. Un dealer le menace avec un pistolet, le policier le tue. Contexte politique en Italie, une guerre entre le gouvernement et les juges avant un référendum sur le statut de la magistrature qui divise l'opinion. À la télévision, Giorgia Meloni reproche au procureur d'ouvrir une enquête pour homicide volontaire contre le policier. La justice serait plus clémente avec les casseurs dans les manifestations, deux poids, deux mesures.
Dans ces conditions, c'est difficile de protéger efficacement la sécurité des citoyens.
Sauf que l'enquête permet de raconter une autre histoire. Le dealer n'avait qu'une pierre à la main, c'est l'agent qui a ajouté l'arme sur la scène du crime et il est accusé en plus d'avoir racketté régulièrement les trafiquants. Trahison de la nation, écrit maintenant la première ministre, mais l'affaire la met en difficulté pour une deuxième raison. Une salve de mesures sécuritaires défendues actuellement par le gouvernement prévoit un bouclier pénal pour les forces de l'ordre. pas d'ouverture automatique d'enquête si les agents tirent en état de légitime défense. Ce bouclier aurait-il empêché la manifestation de la vérité à Milan ? Les juristes sont divisés, l'opposition s'engouffre dans la brèche.
Bruno Duvic, correspondant de France Culture à Rome, on l'a appris tout à l'heure, le pape Léon XIV se rendra à Monaco le samedi 28 mars prochain. Ce sera la première visite d'un pape dans la principauté à l'époque contemporaine. Adieu veaux, vaches, cochons, couvées et visiteurs. La fréquentation du salon de l'agriculture a chuté d'un quart les quatre premiers jours, annoncent les organisateurs, en cause selon eux l'absence de vaches au salon, mesure prise cette année en raison de l'épidémie de dermatose nodulaire bovine. Le temps du soleil cet après-midi qui sera voilé par endroits de quelques nuages et des températures au-dessus des normales de saison entre 14 et 21 degrés pour les maximales. Depuis ce matin, notez qu'il n'y a plus aucun département en vigilance rouge pour risque de crue. 4 sont en orange. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malray. À 18h, vous retrouvez Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.
Merci beaucoup Mathilde Romagnon et à demain.
À demain.